est 11h. C'est l'heure de la maraboutique.
Manu Dibango sur Africa numéro 1, la maraboutique.
Boutique du dimanche matin, Tito, notre Bastille.
Nous l'apprenons musicalement, Doyen Manou, mais par contre, on est heureux parce qu'avec ce mois d'avril, beaucoup d'événements arrivent. Et figure-toi qu'on en parlait de plus en plus de cet aspect chorégraphique, danse, et on va en parler d'ailleurs dans un instant. Il y a des choses qui se déroulent, et notamment du côté du théâtre de l'épée de bois. C'est à la Cartoucherie, dans le 12e arrondissement de Paris. Il y aura donc la semaine prochaine et jusqu'au 22 avril, eh bien, Les Bords du Monde, un spectacle théâtre, danse, musique, cirque. Avec 12 artistes.
On ajoute le cirque.
Et oui, avec 12 artistes qui viennent du Brésil, de la Syrie, d'Haïti, du Togo, du Maroc et de la France, et qui proposent une création. On aime bien ce terme. C'est une création qui est signée Laurent Poncelet et qui met en avant cette thématique.
Et englobe tout ça.
Oui, voilà, de ces pays où les réfugiés, voilà, sont très nombreux, où la situation est urgente. Il y est question, par exemple, de chanter de la Syrie au Brésil. Quelle est belle la liberté, c'est un spectacle qui va faire date et on voit ces affiches fleurir un petit peu partout à Paris et ma foi ça fait plaisir.
Avec un noir qui a l'air de souffrir comme d'habitude.
Il est dans
quand
une
il n'est pas hilar, il souffre.
C'est un moment dans la danse, le dame nous l'a vu, c'est vrai que c'est un instant, on aime bien
c'est
en
incroyable.
Tout cas quand ces affiches sont captées, la Cartoucherie pour ceux qui nous écoutent, c'est route du Champ de Manœuvre, c'est à côté du métro Château de Vincennes, c'est pas loin d'ici et ça se déroule donc du 12 au 22 avril, les jeudis et les vendredis à 20h30. Et puis en parlant de danse, c'est l'autre surprise. On connaissait Irène Tassambedo qui elle aussi fait ce qu'elle veut, de la danse à la musique. Elle a même fait les chœurs d'ailleurs chez ses petites sœurs des Nubians. Et bien là, c'est la surprise de Seydou Boro. Seydou Boro, on le connaît bien d'ailleurs parce que c'est quelqu'un qui parle de cette danse, nouvelle, d'un aspect touche à tout de la danse africaine. Il a écrit pas mal de choses. Seydou Boro qui livre maintenant, un album. Il avait été également acteur. Son album s'appelle Oron. Il y joue également de la guitare. C'est quelqu'un qui a été formé à l'art dramatique, qui a fait pas mal de choses. Et
c'est,
voilà.
C'est un vieux concept, tu sais, Tito. Dans les années 60, en fait, il y avait George Anderson, qui est décédé là.
Oui.
Et qui a commencé dans la même maison de disques, d'ailleurs, que Johnny Hallyday. C'était Vogue. Et non seulement il faisait la chanson, mais c'était un très beau danseur. Et à cette époque-là, dans des clubs, il y avait des spectacles avec un couple de danseurs, deux ou trois danseurs, ou bien tout simplement des chanteurs. Entre l'orchestre normal d'un club, il y avait toujours une attraction. Voilà. Boro, là, il est en train de me rappeler ce qu'on faisait à l'époque. Et Anderson, c'était l'un des plus grands à cette époque-là qui promettait. Il a eu son destin, Hallyday a eu son problème. Ils ont été les deux premiers, en dehors de Sidney Bechet, à signer cette maison de disques qui s'appelait Vogue.
Un label prestigieux. Moi, je me souviens du logo avec les deux traits
relevés. C'est ça.
Qui nous est rêvé.
Et donc, que Boro reprenne ça maintenant, il faut savoir que ça a été fait au départ. Et vraiment, c'est des gens qui avaient le sens de l'espace avec le corps. Et après, on a perdu ça en route. Et puis alors l'autre jour, j'étais comme une fois par semaine ou je sais pas tous les deux semaines, je m'en vais chez l'inspecteur Makossa. Tu te rappelles qu'on avait parlé la dernière fois de l'écriture africaine, un bouquin qui traînait négligemment sur sa table. Et ce jour-là, je rencontre, en même temps que l'écriture, je rencontre quelqu'un qui se sert de son corps pour s'exprimer. Voilà le genre de personnage, inspecteur, que tu fréquentes. Alors, tu peux nous le présenter à ta manière.
Ouais. c'est peut-être mieux qu'il le fasse lui-même, pour une raison précise, que j'aimerais qu'il parle de généalogie. J'aimerais qu'il vous raconte depuis quand. Parce que moi, je pensais qu'au Sénégal, on ne dansait que depuis l'institution de Senghor, le fameux Moudra. Mm-hmm. Et bien, je me suis trompé. Il y a quelqu'un ici, entre les deux guerres, qui a fréquenté Joséphine Decker, qui a fréquenté Jean Cocteau, et qui dansait déjà pour les Américains et pour les Français. J'aimerais qu'il vous dise qui c'est avant de parler de lui-même.
Ok, ben, nous sommes tout de suite.
Bonjour. Tout de suite, on se dit bonjour.
Bonjour, je m'appelle Stéphane Mensah.
Voilà.
Je suis natif du Sénégal.
Mm-hmm. Bien que c'est marrant, Mensah c'est plutôt Bénin.
Ou Ghana.
Mais je suis...
Ton père a foiré l'affaire.
C'est pas mon père, c'est mon grand-père.
C'est
mon grand-père.
Oui.
Comme vous connaissez, bon, le Sénégal, Dakar dans les années 60, c'était un peu la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Donc,
oui. Même avant, d'ailleurs, dans les années 50.
Voilà, du coup.
Son père a eu juste le défaut d'être le fondateur de la faculté de médecine de Dakar.
Le grand-père.
Le
grand-père.
Le père.
Mon père.
Ton père.
Il était professeur
de
médecine.
Alors, parle-moi du danseur sénégalais qui a dansé Chante deux guerres, s'il te plaît.
Ben, il s'appelle Feral Benga. Et en fin de compte, c'est en faisant mes recherches que je me suis bien posé la question que s'il y avait. Joséphine Baker, il devait avoir son opposé.
Son alter ego.
Son alter ego.
Oui.
Et dans ce travail de recherche, j'ai trouvé qu'il y avait en fin de compte un Sénégalais qui était de naissance de mère Ferrer et de père Lébou, et qui était venu dans les années 30, 28, travailler aux Folies Bergères, qui en fin de compte était modèle pour Cocteau, qui a été et qui est décédé dans les années 56. Donc, on dansait bien avant, dans le milieu.
Oui, mais ça se savait pas toujours.
Ça se savait pas toujours, ouais. Et la seule chose, je pense, que Feral Benga n'a pas été reconnu un peu dans notre communauté, c'est que peut-être il avait un peu son côté homosexuel de cette époque, en fin de compte.
On n'en parlait pas beaucoup non plus, les Cocteau et tout ça, les gens marraient. Ouais. C'était une spécificité intellectuelle en Europe, mais pas en Afrique. Quoi.
Donc on a une histoire assez contemporaine de la danse aujourd'hui comme elle se pratique.
Mmh.
Et ce Feral Benga, en fin de compte, a initié énormément tous les tableaux sur l'Afrique à l'époque, avec la banane.
Oui, la banane autour de la taille de Joséphine.
Ça vient de chez lui, c'est lui qui l'a inventé.
C'était même très curieux parce qu'en fait, Joséphine Baker, c'était une fille de couleur, bien sûr, mais il y avait toujours un truc bizarre. Est-ce qu'elle était américaine? Est-ce qu'elle était africaine? Parce qu'avec ses bananes, c'est plutôt l'Afrique,
oui.
C'est pas l'Amérique.
Oui.
Alors, ce symbolisme, il y avait quelque chose de bizarre
oui.
Sur le personnage de Joséphine Baker, finalement.
Ben, parce qu'elle avait un coach. Ah. Qui s'appelle Feral Benga.
C'est un
Sénégalais, qui était danseur et qui, en fait, lui a amené toutes ses formes.
Ben voilà, c'est aujourd'hui qu'on apprend la signification de la banane chez Joséphine Baker, tu vois.
Alors, plus près de nous, c'est bien, parce qu'il faut savoir, dans sa dernière tournée, même Mamie Madonna, comme on l'appelle maintenant, a repris ce concept aussi, un peu Joséphine, un peu cabaret. Et ce qui est dingue, c'est que l'inspecteur Makossa parlait de l'héritage et de la transmission en parlant du mudra, et beaucoup d'autres se sont dit, tiens, merci monsieur Béjart, c'est vous qui nous l'avez amené. Cette idée d'une danse de Amanou et de l'expression, on avait l'impression qu'elle n'était pas du tout pensée. Il y avait toujours cette idée de on danse parce qu'on est noir, enfin bon voilà, le rythme dans la peau, ce que tu n'aimes pas et moi non plus.
Non.
Et là, avec Stéphane Mensah qui nous en parle, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs étapes dans l'histoire.
Complètement. Et je crois qu'on danse bien avant Benga. Oui, on parlait tout dernièrement avec Makossa, avec Blaise. En fin de compte, des Égyptiens, des pharaons qui appelaient le pygmée pour... Dis-moi, c'est un peu mieux l'expliquer que moi.
Oui, ça c'est la fonction de la danse. Parce qu'ici en Europe, la danse, en général, la danse classique, hein,
oui.
Elle n'est pas si vieille. Elle n'a avec Louis XIV à la cour ici. Fin 17e, début 18e, et Louis XIV, Louis XIV.
Avec Lully et Molière.
Lully, c'est celui qui joue la
musique. C'est lui qui a amené la musique.
Absolument, absolument. Mais donc, la tradition ici, à l'époque classique, c'est danser les dieux grecs, les dieux romains.
Tout hein? à fait. Ouais.
Avec le romantique, ce sera rapidement, ce sera le Moyen-Âge. Donc moi, l'idée que j'ai eue avec lui, c'était tout en gardant la culture européenne, il racontera où et comment il a été élevé à la danse ici. Je lui ai dit, mais au lieu de danser les dieux grecs, les dieux romains, tu fais la même chose, tu gardes le même but, la même technique, mais tu danses les dieux égyptiens, les dieux africains. Et là, je peux vous le dire que il a commencé à faire les recherches sur les textes, et on s'est arrêté sur les textes anciens d'aujourd'hui chez les Africains, sur le vivant et le mort. Donc on est venu à travailler l'histoire de la mort, comment, quelles sont les techniques africaines pour rendre la mémoire de quelqu'un immortel. Évidemment, ça vous concerne d'abord vous autres, hein, les musiciens et les danseurs. Manu parlait de poésie tout à l'heure, en grec ancien, il y a deux formes de poésie. Il y a celle qu'on appelle la poésie ambique, c'est-à-dire le pied de bétail, et la poésie dactyle, c'est-à-dire que les doigts de la main. Donc vous êtes entre les deux. Donc lui, on lui a demandé de danser Jean Rouch. Jean Rouch a eu son centenaire l'année dernière.
Ah oui, alors donc...
Les Français bouclaient l'immortalité de Jean Rouch. Ils ont eu l'idée d'appeler ce monsieur aller danser Jean Rouch, où ça? En Afrique, à Brazzaville, où Manu a commencé son initiation. Donc, il peut vous dire, le sujet
sur la musique. Et sur la musique de notre
il s'agit parce de que pour le sujet et la musique dont il est question.
Oui, mais attendez, parce que pour les profanes et ceux qui nous écoutent, s'il y a eu le Moi Jean Rouch à Brazzaville, donc qui a été fait au Congo, Jean Rouch, grand réalisateur homme d'image que tout le monde connaît, qui a trouvé la mort d'un accident en Afrique, qui était tellement attaché à cette terre du Niger et à qui on doit beaucoup de documentaires. Le lien entre tout ça, j'ai l'impression, Stéphane Mensah, c'est déjà aussi une vision qui est la tienne. Quand on fouille un peu au sujet du danseur, du chorégraphe qui est avec nous, il parle d'une mission d'Oumanou. Il dit « Je me propose d'impulser une dynamique pour une prise de conscience de la situation vécue par des groupes sociaux à travers l'expression corporelle. » C'est donc danser pour raconter, pas simplement pour une forme esthétique.
Non, oui, exactement. Danser pour raconter. Danser pour savoir.
Pour savoir aussi. Ah oui.
Oui.
Et quand on se retrouve justement dans ça et dans la célébration dont on parlait de Jean Rouch tout à l'heure, comment est-ce qu'on on crée le lien? On s'imprègne du personnage, on s'imprègne. Comment est-ce qu'on en ressort quelque chose?
D'abord, on se documente sur la personne à qui on va parler, laquelle va s'investir.
Et ces documents, tu les cherches où, en général, parce que bon, quand on parle de se documenter, est-ce qu'il y a des endroits où tu vas puiser les éléments que tu as besoin?
Oui.
Hein, parce que c'est ça, en fait. Parce que tu dis que tu danses pour savoir.
Pour savoir. Donc, comment je peux amener des formes à ces idées-là, en fin de compte. C'est comment je peux transformer, amener ces belles idées à des formes. Et du coup, là, cette documentation, aujourd'hui, il y en a, hein, aujourd'hui.
Des formes corporelles,
donc. Des formes corporelles. Mmh. Donc, je vais travailler dans les contes. Je cherche sur tous les contes africains, sur les rituels de mort, sur les rituels de renaissance. Et à partir de ces matrices que
tu recueilles,
que je recueille, je peux m'inspire au niveau de moi, j'arrive
à les transformer
à des formes et pour expliquer.
Et quand tu danses sur les immortels,
mais ça c'est venu pour une raison bien précise. C'est mon trajet chorégraphique qui m'a amené là chez Franck Labukaka, parce que
toi, c'est curieux les rencontres.
C'est quand même un texte d'une densité extraordinaire, un morceau d'une.
Mais il disait complètement, il expliquait mon concept. Il expliquait le concept de résurrection, de renaissance. Franck Labukaka, en écoutant sa musique, j'ai compris qu'il parlait de la même chose que moi, de comment faire revivre nos morts, faire revivre nos anciens ferroviaires. Et c'est pour ça que j'appelle mon spectacle Baba Tunde Jean Rouch, parce que Jean Rouch, pour moi, il est devenu un ancêtre africain.
Un ancêtre
africain. je l'immortalise en tant qu'africain. Et Franklin Bukaka fait la même chose dans son morceau des Immortels,
parlant de Mehdi Ben Barka,
de Che Guevara,
Malcolm X,
et qui mélange tous ces gens qui ont travaillé pour l'indépendance, de la libération du monde noir, etc. et tout.
Mais tu vois, c'est curieux parce que avec toi là, il y a une autre boucle qui est bouclée, parce que les Immortels, on les a enregistrés à la rue de Cito, à deux blocs d'ici. Il y avait un studio dans les années, fin des années 60, du coup, hein, au début des années 70, quand on a fait le disque avec Franklin. Et Les Immortels, c'est un des derniers morceaux du disque qu'on venait de faire. Il manquait un morceau. Ah. Alors je me suis mis au piano et lui, il a sorti Les Immortels. Et c'est bien que quelques décennies après, par le mouvement de la danse, on aboutisse également à Franklin Moukaka.
On va écouter ce titre, les Immortels. François va parler d'un geste chorégraphique, mais effectivement, avant qu'on retrouve justement Binet Toussila, je voulais quand même revenir aussi parce que c'est très bien documenté par rapport à tout ce que Stéphane Mensah peut faire. Il y a un rapport au corps qui est particulier, et il y a eu aussi quelque part, je dirais, ce tour de force qui est extraordinaire. Kora-corps, Kora avec K comme l'instrument. Doamanou, ça te plaira parce que Kora-corps, corps à corps, amour-combat, corps de Kora, corps de femme. Il y a comme ça un enchaînement de choses.
Femme nue, femme noire.
Corps qui s'éloigne, corps qui se rapproche, corps qui bouge et qui termine comme ça avec grâce par Kora toucher, Kora prendre, à corps et à cri, corps à cœur.
Yes.
Alors quand on a le mantra Sissoko quand même, ça veut dire qu'on cherche.
Oui.
C'est-à-dire qu'on cherche et, et qu'est-ce qui est prévu donc pour la feuille de route? Parce qu'après ce mois Jean Rousse, il y a
ben,
autre chose.
C'est d'en faire des Baba Toundé. Parce que
il y en a certains.
Donc j'ai cette matrice que j'ai commencé et puis faire comprendre à mes danseurs ou à mon public quel est le processus.
Si tu vas au Cameroun, je te recommande Francis Bébé parce que lui aussi il a des démarches parallèles ma langue fourche en ce moment. tu trouveras dans chaque pays, tu trouveras quelqu'un comme Franklin, je veux dire. Ouais. Tu vois qu'il y a un message aussi, mais il faut. Bon, Les Immortels, tu les trouveras pas toujours sous cette forme-là, mais tu les trouveras probablement dans chaque pays africain, là, tu trouveras probablement de quoi enrichir ton mouvement, quoi, tes gestes, ta gestuelle.
Exactement, c'est tout à fait ce que je recherche. Je recherche de, et en plus de, par ce moyen, au niveau technique, hein, c'est un travail chorégraphique plutôt qui s'adresse à mes danseurs, de comment trouver, comment justement partir de ces traditions et de développer notre propre vision contemporaine à partir de ce classicisme africain, comment penser, comment réfléchir au niveau du mouvement, comment trouver l'espace, comment trouver nos espaces à ce niveau-là, de changer tout ce processus qu'on a qui vient de la revue, de toute cette histoire de la danse africaine.
C'est bien, on parle d'espace aujourd'hui, hein, déjà comme Miles Davis, il avait le sens de l'espace.
Même
dans
sur
du
scène.
Silence, en fait.
Ouais. Stéphane Mensah avec Jot, D-G-O-T. Oui. On rappelle quand même que ce sont des ateliers de danse. On rappelle que c'est une approche de la danse qui est très différente, que vous pourrez retrouver sur son site internet. Alors, on parle également aussi de la free dance, danseur chorégraphe, avec un contact pour ceux qui nous écoutent. Et qui est le vrai, car le site est vrai, 06 24 52 53 45.
Tout à fait.
Et je le répète, 06 24 52 53 45. On n'aura pas fini d'en parler.
Hein. Je remercie énormément
et venez
l'inspecteur.
Danser.
Oui,
Makosa, parce que c'est lui qui me. À chaque fois que je découvre quelque chose chez Makosa, j'aime bien le faire partager. Sur notre antenne, puisqu'on a l'occasion de parler musique, ce sont des musiques également.
Et oui, et la musique que l'on va utiliser pour lui donner une partie de la route, car il reviendra, c'est Franklin Moukaka, Les Immortels, avec cette fameuse intro guitare et ce chuchotement à la fin comme un artiste qui allait vers son destin.
Afrika mon pimbae, ton kangi maboko, ton zali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na kote kamae, na banguna. Tola timo kuya ata malobate, Congo na pan Afrika baleli. Afrika ma pimba to kangi maboko to zali kota lae. Bana basili na kokende. Bana basili na kote kamae na banguna. Tolati mokuya ata malobate. Congo na bana Afrika baleli.
Sur Africa numéro 1.
La radio africaine 107.5 FM. Stéphane Mensah nous parlait de la danse. Il évoquait avec nous l'art, Doyen Manou. Mm-hmm. Et c'est vrai que l'art va bien avec ceux qui érigent des grandes maisons pour l'histoire, des grandes maisons de disques. Art comme art, comme si l'art. Et que nous sommes heureux ce dimanche.
Eh oui, enfin, Malherbe ne vient pas, mais c'est Bintou qui arrive parce que, à force de parler d'elle à l'antenne, en pensant d'abord à son père, un immense défricheur de talent en Afrique, un homme immense tout simplement, parce que la passion de la musique, au détriment de ce qu'il était censé faire avant, hein, l'a amené quand même à avoir un vaste catalogue et à baliser tout un espace et toute une époque dans la musique, dans les musiques africaines. Donc, comme lui, il est parti rejoindre les anges, on se disait, ben, en fait, sa fille, quand est-ce qu'elle viendra, parce que c'est elle qui s'occupe de tout ça. Et ça fait déjà plus d'un an qu'on pense à cette histoire-là.
Et oui, on y pense, d'autant plus qu'on a vu apparaître son visage et on a lu son propos dans pas mal de parutions, dans la presse ici et là. Mais surtout, on a été très heureux de Manou de voir que ben, l'histoire de Silart Production allait continuer et oui, que ce label avait ben, tout simplement aujourd'hui à sa tête quelqu'un qui avait de qui tenir non seulement, mais quelqu'un qui a aussi cette envie de continuer à porter l'art et les musiques africaines.
J'aurais été malheureux que cette branche-là se coupe pour définitivement, quoi. Donc, nous sommes très heureux de te recevoir. Et puis, elle n'est pas venue seule, d'ailleurs.
Elle est venue très accompagnée, on le dira, avec un clin d'œil à sa maman qui est présente. Bintou, Sila, comment vas-tu?
Bonjour, merci pour l'invitation. Merci.
Ah ben, c'est nous, depuis le temps. Alors, Doyen Manou disait un an qu'on en parle, même peut-être beaucoup plus, parce que dans un premier temps, et c'est vrai que ton père était venu, mais il était très souvent loin du micro. Il était derrière la vitre, il disait « je ne veux pas parler ». Tu nous confirmes, c'est pas quelqu'un qui aimait s'étendre, non?
Pas du tout, non. C'est très rare sont ses interviews, il n'aimait pas. En fait, pour lui, c'était aux artistes de s'exprimer. Lui s'exprimait par les artistes qui produisaient, et puis c'est tout, quoi.
L'homme de l'ombre. Ici, l'ombre.
Ouais. Et le Doyen Manou, il parle quand même aussi de ce monsieur dont les parents ne voulaient pas qu'il arrive vers ce domaine-là. Il y a cette fameuse légende de quelqu'un qui a été têtu, qui a demandé à une grande sœur de l'aider pour lancer cette incroyable aventure qu'il allait vivre. Est-ce qu'il en parlait souvent à la maison de « ah ben voilà comment j'ai commencé, ça n'a pas été facile
Après, ça c'est bien plus tard, moi, quand je... C'est à la fin de sa vie qu'il aimait bien revenir, en fait, sur les débuts de son travail dans la musique. Mais après, on savait, parce qu'effectivement, il a grandi dans une famille de marabouts, donc les gens faisaient pas de musique. Et puis chez nous, la musique, c'est pour les griots, en fait. Donc on savait, on sentait bien en fait qu'on était un peu une famille un peu pas bizarre, mais j'avais un papa qui était particulier, quoi, qui faisait de la musique sans être griot, sans être musicien. Donc oui, on connaissait.
Les murs invisibles, comme il y en a en Afrique, quoi. Hein, il y a beaucoup de murs. Hein.
Ouais, mais il était vraiment passionné et en fait je pense que rien ne pouvait l'arrêter, donc il a abattu des murs en fait.
Alors des sciences d'économie qui étaient prévues, puisqu'il était censé étudier l'économie, il s'est tourné vers sa passion. Et lui, c'est déjà aussi quelqu'un qui écoutait de tout. On parlait des sons afro-cubains, mais également de la soul américaine. Doyen Manou, quand on parle de Silart, au-delà du catalogue, on parle de quelqu'un qui a une vision, en tout cas sur une musique africaine, mais également africaine à travers le monde.
Ouais, ce que je regrette dans cette histoire-là, c'est qu'il n'est pas couché, qu'il n'ait pas fait un livre pour voir, parce que si on le voyait passer une chose, Mais bon, le temps de penser à faire un livre, parce que tout de même, c'est une expérience unique dans la mémoire des musiques africaines. Hein, quelqu'un qui a eu ce vaste catalogue quand même, et qui a eu la curiosité, comme tu dis, non seulement d'écouter l'Afrique, mais d'écouter aussi les cousins de l'Afrique.
Et les cousins de l'Afrique lui donnent une ambition. Il connaît l'histoire, évidemment, des Berry Gordy avec Motown. Il connaît les grandes écuries de l'autre côté de l'Atlantique. Il sait également ce qui se passe en France au niveau des labels. Et il a ce rêve de dire, ben voilà, moi, je vais aussi porter le flambeau de cette Afrique et structurer cette musique avec une maison de production digne de ce nom. C'était un peu ça, Bintou?
Ouais, je pense qu'il avait en tête effectivement les grands labels comme la Motown ou la Fania All Star aussi, pour parler de sa passion pour les musiques cubaines. Et je pense que très rapidement, en fait, il a compris qu'il fallait qu'il ait une structure. Donc c'est pour ça qu'il est venu et qu'il s'est basé à Paris, sans toutefois oublier le continent parce qu'il était la plupart du temps là-bas. Mais il avait vraiment, je pense, à cœur de structurer en fait et de créer un label. Et c'est très vite qu'il a créé Sealart Productions en 1981.
Et à cette époque-là, c'était difficile pour un Africain, d'ailleurs, de penser avoir un label. Un label qui dépassait sa ville, son pays. Aller dans d'autres... Un vrai label, en fait. C'est-à-dire le côté cartésien de l'Occident, avec la particularité que lui, il était Africain. Donc, mettre tout ça en mémoire, organiser, en fait, un truc, parce que c'est ça le problème. C'est que tu as malheureusement des petits producteurs, qui n'ont ni les moyens, ni l'imagination, peut-être ni l'ambition. Parce que lui, il avait une ambition, c'est de faire un vrai label. Un label égal aux autres labels qui étaient sur la place, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis. Et c'est bien pour ça qu'ils nous intéressent beaucoup, parce qu'ils sont très rares. En dehors de celui qui est, comment il s'appelle, qui est dans les îles, là.
Plus Africa,
peut-être. De José da Silva.
Voilà, de da Silva, finalement. Et puis qui, un qui est parti très vite.
En parlant de Jean-Pierre Sartre, de GTS Production.
Voilà, donc, mais lui, il est resté, ils sont deux. Avoir fait quelque chose pour un continent, tout au moins du côté lusophone et francophone, quoi. Mm-hmm. Parce que les anglophones, ils ont une autre façon de fonctionner.
Et le fonctionnement d'Ibrahima Sealart et Bintou, je pense que là-dessus, nous, c'est ce qu'on a de l'extérieur, c'est quand même quelqu'un qui dialogue avec les artistes. C'est-à-dire que nous, quand on le voyait, ou du moins quand on allait dans le 18e, dans cette sacro-sainte antre où il était assis au fond, alors il pouvait discuter avec des très grands noms, il peut parler avec des arrangeurs comme François Bréant, et quand il faut discuter avec un artiste venant du continent qui a pas du tout les codes de production en Europe, il s'adapte, c'est-à-dire il y avait cette humanité avant de produire un artiste froidement et de mettre un budget.
Ouais, non, mais je pense qu'en fait tout ça s'explique vraiment parce que c'était vraiment quelqu'un de passionné en fait. Il faisait ça d'abord parce qu'il aimait la musique, parce qu'il aimait les musiciens, et d'ailleurs il en faisait des sacrifices. Hein. Je suis à côté de ma mère, elle veut pas témoigner, mais mais réellement après, enfin oui, il s'adaptait. Et je pense qu'aussi sa particularité, c'est que il a jamais en fait cessé d'être africain, tout en étant ici, et il a pris des deux côtés.
Ouais, étant cartésien.
Et c'est ce qui lui a permis de pouvoir jouer sur tous les côtés, en fait, d'être tout le temps présent en Afrique. Et puis il y avait quand même aussi tous ces gens qui étaient avec lui, c'est les autres producteurs en Afrique sur place, un réseau formidable qu'il a continué à garder, à développer. Ça, c'est important. Faut pas oublier tous les gens qui travaillent avec lui, les producteurs locaux en Guinée, au Mali, au Sénégal, au Congo. Et les gens qui travaillent avec lui ici aussi. Mais c'est vrai qu'il avait ces deux choses, en fait. Je pense que c'est grâce à ça, en fait, qu'on existe toujours, qu'on est un des rares labels africains à toujours exister.
Et ce sac, Doyamanou, ce sac avec des contrats ou avec des cassettes qu'il peut écouter en avion, un sac où il dit, tu sais pas ce que je suis en train de préparer, bon, mais attends, écoute, je vais te montrer ça. Il y a ce côté...
Il y a que lui qui s'y retrouvait, d'ailleurs.
Hein. Oui, ah, qui s'y retrouvait. Et tu parlais de quelque chose qui était presque dans un sens d'artisan. C'est un terme que tu as utilisé à son propos une fois.
Ben oui, il fallait ça, il fallait quelqu'un qui a une âme d'artisan, parce que les Berry aussi, finalement, vu l'époque, ils avaient une âme aussi d'artisan. Hein, c'était de l'artisanat, mais Ok, qu'on développait, ça devenait un art après. Mais au départ, il fallait penser artisan. Et, mais le côté noble de l'artisan, justement, il l'avait.
Et noble et soigné jusqu'aux pochettes.
C'est un artiste, en fait.
Hein. Voilà, voilà, un artiste voilà. Jusqu'aux pochettes ou au contenu. Gare à qui ne réussissait pas à placer la photo au bon endroit. Un livret avec ses collections incroyables, African Pearls, où on a tous les renseignements et l'histoire en français comme en anglais. C'est cette méthodologie pour Szilárd, c'est ce qui aura fait également aussi sa légende. Et c'est ce qu'aujourd'hui, Bintou, il faut porter. Et te retrouver là, justement, avec cette maison, parce que nous, on parle label et tout ça, mais c'est quand même une maison. On parle de la maison Szilárd. Au début, ça s'est passé comment? Ça a été instinctif? Ça a été de la peur? Ce passage de témoin.
Il était malade, en fait. Donc, la question s'est pas trop posée, parce que je suis sa fille aînée, on est cinq enfants.
Toi, tu faisais l'histoire, toi?
Oui, moi, j'étudiais l'histoire.
Et elle aimait jouer au tennis.
J'ai fait le tennis pendant longtemps, mais j'avais arrêté un peu quand même. Mais je terminais mes études d'histoire, donc j'ai fait un master d'histoire à la Sorbonne, et j'allais commencer une thèse en histoire de l'Afrique. Et donc, il était malade, et il m'a un peu fait à l'africaine, quoi. Il m'a fait asseoir à l'hôpital devant tous les tontons. Et il m'a dit bon, maintenant il faut que tu te mettes dans le label et tout, c'est important,
que tu changes de casquette un peu,
voilà, hein. Mais il me l'a dit un peu, vous voyez, un peu à l'africaine, un peu menaçant, et un peu bon, c'est parce que c'était quelqu'un de très pudique, en fait, aussi. Peut-être qu'il avait pas, je sais pas, il avait pas envie de me le dire de façon un peu, vous voyez, enfin voilà, il l'a dit comme ça, et bon, moi j'ai senti, j'ai compris que c'était important.
Il voulait pas le côté émotionnel, ouais.
Voilà. Il voulait pas, mais en même temps,
il insistait.
Mon père, c'était quelqu'un de très, c'était un hypersensible, en fait, sous son truc comme ça, très, un peu dur. Il avait un regard un peu dur, mais c'était quelqu'un d'hypersensible, en fait.
Absolument.
Et donc de très pudique aussi.
L'un n'empêche pas l'autre, hein.
Oui, les deux vont ensemble. En fait, en vrai, souvent même les deux vont ensemble, en fait. Les gens qui sont hypersensibles sont pudiques. Et donc, non, ça s'est vraiment passé comme ça, et j'ai dû tout apprendre, en fait, parce que comme il était très malade, on va dire les six derniers mois, j'ai appris toute seule. En fait, pour vous donner une anecdote, moi, j'ai pris tous ces contrats. Il voulait même pas que je touche à ces contrats. Tout en voulant que je reprenne le flambeau, mais il voulait pas que je touche à ces contrats. Donc, avec ma mère, on prenait les contrats petit à petit.
Pour voir comment ça se passait dedans.
En fait, ce que j'ai fait, c'est que, non, mais vraiment littéralement, j'ai pris tous les contrats et je les ai tous mis par terre, vraiment à terre. Et pendant cinq mois, j'ai lu, et en lisant, j'ai compris les différents types de contrats. J'ai compris 30 ans de musique. J'apprends toujours.
En 5 mois.
Mais j'apprends
non,
toujours.
Non, mais je comprends ce que je sais,
mais
ce que je veux dire.
Je me suis dit, je connais rien. Et il n'est pas en capacité de pouvoir me transmettre. Et comme c'était quelqu'un aussi qui était même pudique dans son travail, donc les contrats, c'était vraiment que lui qui y regardait, qui gérait.
Ça devait être lourd, ça devait être lourd.
Oui, mais après avec ma mère, voilà, elle m'a donné de la force, et puis lui-même, en fait, il était là encore, donc quand je faisais les choses, il était là au début, il me soutenait, il m'encourageait, les premières signatures de licence, de machin, de synchro, il me disait ah bon, c'est toi, t'as réussi quand même, ah bravo. Donc il voyait quand même que il était là. Mais voilà, enfin après, je pense que je suis très humble sur son travail, et j'apprends tous les jours, et encore aujourd'hui. Et j'ai vraiment pris le truc comme quelqu'un que je connais pas, et il faut que j'apprenne.
Mais justement, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes là, maintenant que vous êtes en plein dans la bagarre?
Mais non, si justement, je peux dire. La bagarre, c'était au début, en fait. La bagarre, c'était parce qu'il fallait que j'apprenne, parce que comme il a été malade pendant longtemps aussi, il y a eu des choses qu'il n'a pas pu faire comme il le voulait.
Il s'est battu incroyablement.
Oui, il a eu une longue maladie, il s'est battu, il a eu une rechute, bon, c'est le cancer, donc c'est quand on se bat contre le cancer, c'est difficile. Et aujourd'hui, on est plutôt, on va dire, contente avec ma mère, parce qu'on a pu pouvoir récupérer aussi une partie du catalogue qu'il n'avait plus, lui, en main à l'époque où il était encore vivant.
Pourquoi?
Pour des trucs de business, ou peut-être des choix qui n'ont pas été opportuns. Après, je pense qu'il était vraiment à l'époque où l'industrie changeait avec le digital. Donc il avait peut-être pas eu le temps de vraiment analyser, en fait, les enjeux
de pénétrer
voilà. Et du coup, il a laissé à des gens s'occuper de ça, et en fait, il aurait peut-être pas dû, enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, a posteriori. Mais après, moi, je suis pas trop dans le jugement de ce que mon père a pu faire avant, parce que c'est facile, en fait, de venir et de juger sur le passé. Donc, moi, je préfère faire les choses bien reprendre les choses et faire sur l'avenir. Donc aujourd'hui, on est plutôt content parce que déjà, on a pérennisé en tout cas l'héritage du catalogue et puis on veut le mettre en valeur. Donc on continue tout le travail que lui, il avait initié sur les rééditions en vinyle, les compilations, le travail de numérisation qui est toujours important. Et puis d'autres catalogues aussi qu'il avait rachetés un peu avant sa mort, des catalogues guinéens, des catalogues maliens, qu'il faut qu'on travaille dessus. Et puis moi, je fais même d'autres choses. Je fais un peu de musique, on va dire, plus moderne, du rap afro, des choses comme ça, voilà.
Donc à l'heure actuelle, vous gérez beaucoup plus que vous ne produisez, en fait.
Oui, parce que c'est on est obligé, en fait. C'est, je pense qu'un catalogue comme ça, 30 ans de musique, de production, il faut prendre le temps, en fait, de bien pérenniser l'héritage.
Et combien de références que tu parlais de catalogue, justement, parce que c'est impressionnant. Nous, on essaie avec le Doin Manou. Enfin, lui, il a vu le début. Nous, on voyait ça de façon anecdotique, mais quand on regarde, au final, c'est un nombre de... Ouais. Moi, je regardais juste le nombre de pochettes, une fois comme ça, sur le net.
Et le nombre de trucs qu'on
de
joue
production.
Ici.
Oui. De production, c'est-à-dire où il a été lui-même producteur, je pense que c'est entre 1200 et 1400 albums.
Bon, d'accord.
C'est énorme, non, mais il y a des années où il produisait, je sais pas, 150 albums, ça n'a même, enfin, je sais même pas, enfin, bon, si, je me dis, si, je sais, parce qu'il était jamais là, donc, donc oui. Et après, il a effectivement racheté des catalogues anciens, comme par exemple le catalogue de l'État guinéen ou le catalogue de l'État malien.
C'est Siliphone.
Voilà. Après, il y a eu des catalogues en licence, donc où il a fait des travaux de masterisation, enfin de digitalisation, de remasterisation, comme par exemple le catalogue de Grand Calais ou de Taboulé Rochereau.
Tout à fait.
Ou d'autres catalogues, voilà. Mais
avec les African Classics, c'est voilà. Ces belles pochettes.
Voilà. Ah, c'est lui qui a racheté Cabassini.
Il n'a pas racheté, mais il a licencié le catalogue. Pour pouvoir le retravailler, pour pouvoir le remasteriser, comme celui de Taboulé aussi. Hein, c'est pas un rachat. Mais voilà.
Donc vous m'avez dans vos trucs, parce que comme j'étais avec Cabassini.
C'est pour ça que j'ai choisi. Le premier titre que j'ai choisi, vous verrez.
Et d'ailleurs,
merci à la maman qui me porte.
Et en temps réel, d'ailleurs, c'est Madame Silla qui offre d'ailleurs
le Grand Calais.
Et c'est ce qui est intéressant.
Merci, madame.
Parce qu'on lit, aussi bien qu'on écoute. Quand justement on a une œuvre qui est livrée par Silart. Et moi, je me souviens quand même, parce que Africa numéro 1, on y entre, il y a Gilles Salah, bon, il y a quand même des grands noms. Moi, j'arrive et il m'appelle pour venir dans le 18e pour me remettre en main propre des disques, plutôt que de les recevoir à la radio. Ouais. On était à l'époque à la rue Gersan. Et quelques temps après, quand le Doin Manou me demande d'être son copilote, et là encore, j'en menais pas large, Silart me dit, oui, il paraît que c'est toi qui as le Doin, tu as intérêt à travailler. Bon, avec le temps un peu menaçant. Et je me dis, et c'est vrai que cette exigence aujourd'hui, finalement, Bintou, au quotidien, elle est là. Parce que la première chose, d'ailleurs, en arrivant, il y a le nouveau logo, le label, une nouvelle page. Et une nouvelle page, ça veut dire aussi... tout de suite prendre un peu la dimension du papa à bras-le-corps.
Oui, après, comme je dis, je suis avec ma mère, donc du coup, tout ne repose pas
elle
que sur
mes épaules.
Elle
veut rester silencieuse. On a mis le micro en face d'elle, mais elle est silencieuse.
Non, mais elle est comme mon père, en fait. C'est une femme d'ombre. Mais elle est là avec moi. Et donc, du coup, tout ne repose pas que sur mes petites épaules.
Tu as une ombre qui porte, quand même. Hein.
Mais, beaucoup. C'est ma mère, mais c'est aussi celle qui a été l'épouse de mon père et qui l'a accompagnée durant, 28 ans de vie. Donc... elle sait tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est passé. Elle connaît tous les secrets. Moi, j'en apprends plus en fait avec elle. C'est voilà, on est un duo et je pense que c'est important. C'est une entreprise familiale et donc du coup, il y a la transmission et après, il y a aussi moi, ce que j'ai envie de faire aussi, le fait que je sois aussi quelqu'un qui soit né en France. Donc j'ai aussi peut-être ma façon un peu de faire. J'ai 29 ans, donc je y a d'autres gens.
Et comment c'est justement ? Tu parlais d'être né en France. Tu as fait beaucoup d'allers-retours au Mali.
Ouais.
Notamment pour aller voir les studios, c'est pas n'importe lequel, là où il y avait les Ali Farka Touré et tant d'autres.
Studio Bogolan,
Est-ce que l'histoire, justement, de Silla, t'en reprendre les rênes, ça t'a aussi reconnecté encore plus avec le continent? Parce que là, on a parlé des contrats en 5 mois, mais j'ai l'impression que c'est l'Afrique à grande vitesse dans les secrets de la musique africaine.
Oui, c'est sûr que le fait de faire ce travail-là, me reconnecte encore plus. Après, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui nous ont toujours, moi, l'Afrique, ça a toujours été mon quotidien, même si je suis née, j'ai grandi ici. Donc, on allait tous les étés en Afrique pendant 2 mois, que ce soit au Mali, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Donc, ça faisait partie. Après, aujourd'hui, j'y suis souvent. à cause du travail, mais oui, je suis reconnectée, mais en fait, j'ai toujours été connectée.
Eh ben dis donc, quel moment Manu, moi je dois te dire que là, ben on dit Biragodia, enfin les membres ne sont pas morts. Sur le coup, je revois le passage du doyen, des derniers passages avec Africando, quand il a fallu justement venir pour parler de l'opus. Il était là, et là encore, il mettait les artistes devant, en disant non, moi je ne veux pas prendre la parole, j'ai tout essayé. Hein. Ça n'a pas marché. Et puis, puisqu'on parle de musique, et Bintou Sile est avec nous, avec sa maman et Awa, travaille aussi dans la maison. Il y a un premier titre qu'elle a sorti et sélectionné. Bintou et moi, on n'était pas là. Mais toi, tu étais là. L'Africa Bougalou.
J'étais même au studio, en fait. Non, parce que je vois également, en me remettant ce double album, là, je vous remercie, madame. C'est aussi une partie de mon parcours en Afrique. Hein, parce que Kabasile a été le premier Congolais à prendre un Camerounais dans son orchestre. Et je vous garantis qu'à l'époque, c'était pas évident de prendre un nom dans des orchestres qui existent. Et c'est des orchestres qui étaient vedettes déjà. Jouer avec eux, ça vous faisait franchir des kilomètres et des kilomètres en Afrique, quoi. Donc, c'est un grand plaisir et ma foi, en plus, il y a des photos qui illustrent les trucs. J'avais la moustache des cheveux.
Mais c'est justement ça que j'attendais. C'est la fameuse photo avec la moustache. Et puis la cravate était obligatoire.
Ben ouais, ben on était élégants, monsieur. On n'était pas des sapés, mais on était bien élégants. Hein. Et alors, ben, pendant qu'on y est, je crois qu'on entend dans l'air qu'il y aura une fondation.
Oui, c'est une idée que j'ai comme ça, mais il faut, je pense qu'il faut en fait, il faut pouvoir,
c'est nécessaire.
Il faut faire une fondation pour que en fait le projet, en tout cas que mon père y portait, c'était pas juste un projet pour Sylart, c'est vraiment un combat pour le patrimoine musical africain, et je pense que même aujourd'hui c'est une question qui est de plus en plus importante, puisque l'Afrique devient un endroit où tout le monde veut aller, tout le monde se sert. Et je pense que les gens comme mon père ou comme Monsieur Manu Dubango sont des gens qui peuvent, qui doivent même apporter leurs connaissances, leur combat sur le fait que les musiques, c'est un patrimoine en fait.
Tout à fait.
Pas, c'est un patrimoine, c'est une richesse. Et il faut pouvoir le protéger, il faut pouvoir le valoriser. Et je pense qu'une par une fondation, ça peut être quelque chose d'important, oui.
C'est un bel angle. Déjà, on marque un pas maintenant, on parle beaucoup de l'Afrique. Partout, on voit des photos, des expositions.
C'est à la mode.
Voilà, on parle très peu des Africains, mais on parle de l'Afrique. Ouais. C'est ça, déjà pas mal. On arrivera bientôt à parler des Africains. Et parmi les Africains, en dehors des politiciens, parce que tout le monde confond toujours l'Afrique avec un président.
Ouais.
Bon, c'est comme ça. J'espère que bientôt, on parlera de l'Afrique avec ceux qui font parler l'Afrique.
Ouais.
Et en créant, en tout cas en ayant l'idée de cette fondation, j'espère qu'elle arrivera, qu'elle sera là quelque part et que ce sera une pierre à mettre devant tout le monde pour dire que l'Afrique, il y a aussi des Africains qui vivent en Afrique, quoi.
Ouais, c'est très important.
Et qui font des choses qui ne sont pas forcément... parce que lui... C'est une carrière personnelle, c'est pas une carrière avec des Occidentaux. Non, l'idée vient d'un Africain.
Mmh.
Bon, maintenant, il travaille forcément avec le monde entier. Ça, c'est ça l'histoire. Il travaille pas qu'avec les Africains. Donc, c'est vraiment un modèle pour beaucoup de gens et nous sommes très ravis de vous recevoir là aujourd'hui parce que ça fait partie de nos rêves de voir quand même des gens qui ont un autre regard, qui sont africains mais qui ont un autre regard sur l'Afrique.
Ce regard sur l'Afrique avec Sylart Productions et Bintou Sila qui est avec nous dans ce studio, c'est également le choix de titres issus de cette immense collection. Et quand je vais poser la question par téléphone, il va falloir choisir certains titres. Bon, c'est le casse-tête que le Doua Manou et moi on t'a donné parce qu'on s'est dit, il est toujours là.
Comment elle voit ça?
On l'évoque quasiment, si ce n'est pas toutes les semaines, toutes
c'est
les deux semaines.
C'est incroyable, votre papa là.
Et finalement,
vrai, on y pense tout le temps.
On y pense tout le temps et on s'est dit au moins dans, parce qu'il y a plusieurs titres que tu as sélectionnés, on pourra pas tous les écouter ce dimanche, mais dans un premier jet comme ça, Kabasele et l'Africain de Bougalou. L'orchestre à Baobab, dont on a parlé avec Mamadou Bamba.
Oui, avec qui j'ai joué d'ailleurs l'année dernière, l'été dernier, on était à Marcillac.
En pensant d'ailleurs à Medoun Diallo, qui a tiré sa révérence aussi. Ismaël Lo avec le Tadjobone, c'est le Sénégal. Et Salif Keita avec Kono.
Incontournable.
Ouais. On va écouter ces titres d'affilée dans ce jukebox qui est aujourd'hui un jukebox Silart, grâce à toi, Bintou. Et c'est François qui est à la manœuvre.
Oui, une petite une dans la
machine.
Oyo nini yoka Bana ya kongo na kuba bakuta na kandenge nini Oyo miziki O mama Yoka kubina yaka Matata Kide Oya nyere Venga bala mulata
Afrika bugalo
Itu vera
sur Africa numéro 1. Sur Africa numéro 1.
Juda
Bongo sur Africa numéro 1.
La radio africaine au pays de Szilárd, au pays d'Ibrahima Szilárd, qui depuis son paradis doit être très fier déjà de voir Douamanou Bintou être droite dans ses bottes et rigoureuse comme il le lui avait demandé.
Dans sa forêt sonore, je dirais.
Il parle
dans tous les arbres, il y a des musiques, il y a des musiques qui pendent comme ça. Quand le vent arrive, tu entends des sons qui viennent de,
de partout.
C'est formidable ça.
Alors il y a une question que moi je me pose, parce que moi je connais la discothèque et ses détecs chez le Douamanou. Il y a un mur qui est là à la maison. À ta maman et toi d'ailleurs, pour poser la question, les disques.
Les disques de mon père, ça c'est la grande question. Bah oui, il a une collection de fous, une collection de vinyles, qui une partie qui sont ici en France et une autre partie qui sont à Dakar. Donc beaucoup de musique cubaine. Beaucoup de musique cubaine et musique africaine des années 60, 70.
Et il n'aimait pas qu'on y touche.
Et de soul aussi, beaucoup de soul américaine.
Et puis c'était évidemment un endroit...
Non, il n'aimait pas, enfin en fait personne n'y touchait. Moi, c'était même pas accessible en fait. C'est après, à la fin de sa vie, que... Parce qu'à la fin de sa vie, il recommençait un peu à racheter beaucoup de vinyles. Et du coup, là, on avait accès. Mais moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'avais pas accès en fait. C'était caché en fait.
C'est pour ça qu'il y allait en cachette.
La clepsydre joue contre nous, nous dit François. Je ne sais pas ce que tu fais dimanche prochain. C'est une question qu'on pose rarement à nos invités, mais là, l'émission arrive à sa fin, mais nous, on aurait bien aimé continuer à bavarder avec toi. Est-ce que tu pourrais revenir?
Mais avec grand plaisir, bien sûr, oui. Oui.
Voilà, parce que le Douamanou, je pense qu'il est d'accord. Il faut qu'on se rebavarde.
Je d'accorde. Oui, oui, parce qu'il y a. Et puis toi finalement, nous sommes dans le son. Je suis sûr que dans toutes tes émissions là, tu trouveras moyen d'amener une caméra pour voir les vinyles de.
Hein? Ah oui, pourquoi pas, mais bien sûr, oui.
Hein? Quelque chose là. Comme ça. Comme ça, on aura le son et l'image.
Ouais, ce sera
encore
au moins
mieux.
Ça. Alors, Art Africa avec Fatou Birama arrive à grands pas, mais c'est promis, Bintou Szilárd reviendra avec nous la semaine prochaine pour une suite de la Mara Boutique consacrée à Szilárd Production.
Bonne suite. Et puis, Fatou, ça va être à toi.
Et comme d'habitude, rendez-vous donc à 10h sur les 107.5 FM dimanche prochain.
Et nous avons l'habitude de dire...